Bonjour à tous. C'est le dernier culte de l'année, ça ne vous a pas échappé. Et c'est l'occasion de, on va dire, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Je sais que chez les évangéliques, on n'a pas trop la culture du bilan. C'est-à-dire on aime bien aller de l'avant et on préfère parfois, j'allais dire souvent, ne pas regarder en arrière. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et je pense que on doit avoir le réflexe du bilan. C'est pas un caprice de ma part. Ce que je constate, c'est que quand Dieu lui-même s'adresse aux églises, quand il envoie ses vœux, hein, dans l'Apocalypse, il fait le bilan. Il dit, voilà, donc j'ai regardé ton travail, hein, pas ta théologie, pas ton idéologie, j'ai regardé concrètement ce que tu fais. Je connais tes œuvres, en grec. Et puis, voilà ce qui va bien, voilà ce qui va pas. Ce qui va bien, tant mieux, ce qui va pas, il faut le corriger. Ça s'appelle faire le bilan. Et si la fin de l'année, c'est pas l'occasion de faire le bilan, alors, on va pas tourner autour du pot. Chacun tire le bilan qu'il veut. Moi, le bilan de cette année, pour nous, collectivement, communautairement, il se résume en trois mots. L'unité, c'est fragile. L'unité, c'est fragile. Et quand on a dit... Alors, je vous rassure, j'y pensais en venant, ça fait donc 37 ans en ce qui me concerne que je suis membre de cette église, et je n'ai pas assez des doigts des deux mains pour compter les années où le bilan, c'était l'unité, c'est fragile. Parce que la vie d'une église n'est pas un long fleuve tranquille, ça, Jésus l'avait déjà dit à ses disciples, hein, je vous envoie pas vers le confort, je vous envoie vers les difficultés. Et pourtant, l'unité, même si elle est souvent chahutée, c'est essentiel. Ça non plus, c'est pas un caprice de ma part, c'est Dieu lui-même qui nous le dit. Et une fois qu'on a dit ça, y a plusieurs manières de traiter le problème. Y a la manière incantatoire, en disant l'unité, voilà, quand on a répété ça plusieurs fois, on espère que ça va arriver par miracle. Y a une part de vérité là-dedans, c'est que Jésus a prié son Père pour l'unité des disciples, qu'il soit un. Je remarque que la prière, c'est un élément essentiel de l'unité, mais pas l'injonction. C'est-à-dire que Jésus leur a pas dit « Je vous ordonne d'être unis ». Il a dit « Je vous ordonne de vous aimer ». Ce n'est pas la même chose. L'unité, ça peut pas résulter de l'injonction. Ça peut pas être un ordre. On est unis parce que Dieu nous l'a ordonné. Non. La prière, oui. L'injonction, non. Et l'incantation non plus. La prière, parfois, ça se mélange un peu avec l'incantation. Bon, tout ça pour dire, est-ce que au-delà de ça, il n'y a pas ce qu'on va appeler pompeusement une théologie de l'unité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas dans les Écritures des textes qui nous montrent comment concrètement vivre l'unité, comment cultiver l'unité ? Alors, si j'ai fait cette introduction, c'est que moi, je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que la démarche biblique, ça n'est pas seulement, mais c'est aussi de prier, parce que ultimement, il n'y a que Dieu qui peut unir ses enfants. Il ne faut pas oublier que ça se joue aussi dans un ordre spirituel. L'étymologie du mot diable, c'est diviser, diviseur. Donc, il y a cette dimension-là qui est essentielle. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, un, une méthodologie de l'unité pour les chrétiens, et il ne faut pas passer à côté. Autrement dit, la Bible nous montre comment, concrètement, on peut travailler à l'unité. Alors, il y a plusieurs textes, hein, mais j'en ai choisi un, tout le monde sait que les conflits, il n'a pas fallu longtemps à l'Église naissante, l'Église que Jésus avait créée, il n'aura pas fallu longtemps pour se bouffer le nez, et donc l'épisode des femmes de culture grecque qui n'ont pas à manger, et donc ça met un peu en péril l'unité de l'Église entre d'un côté les juifs et de l'autre, enfin les gens de culture juive et de l'autre côté les gens de culture grecque, grec étant un terme générique, hein, tout ce qui n'est pas juif est grec. Ça a failli mal tourner, mais la Bible montre par son enseignement comment ce genre de conflit ça peut et ça doit se gérer. Moi, je vais prendre un autre texte moins usuel en la matière. C'est un très vieux texte, en tout cas un texte qui remonte très loin dans l'histoire d'Israël, au moment de la conquête de ce qu'on appelle communément la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Vous savez que Israël, esclave en Égypte, libéré et conduit par Moïse 40 ans dans le désert, donc Israël devient un peuple nomade, on vit sous des tentes, et Dieu a promis un pays. Sauf que le pays n'est pas vide et qu'il faut le conquérir. Alors il y a la conquête d'Israël, et avant même que les villes, entendons-nous, hein, les batailles pour conquérir les villes, faut pas s'imaginer des villes, c'est pas Stalingrad si vous voulez, c'est plus des villages, mais n'empêche qu'il faut les conquérir. Et le peuple d'Israël, qui s'est déjà réparti le territoire promis, fait quand même la guerre de manière unie, c'est-à-dire que tout le monde se bat pour tout le territoire. On aurait pu concevoir, puisqu'il était prévu que telle tribu allait avoir telle ville, telle autre tribu avoir telle ville, on aurait pu dire chacun se bat pour son territoire, le territoire qui lui est dévolu, sauf que ça n'aurait jamais marché parce qu'ils auraient été en infériorité numérique. Et ce qui a permis la conquête du pays qu'on appelle de Canaan, c'est que tout le peuple s'est battu pour toutes les villes. Donc ils sont restés unis, ça déjà c'est une grande leçon au niveau de l'unité, on ne gagne, et la conquête de Canaan en est la preuve, on ne gagne que si on est ensemble, que si on est unis. Si chacun essaye de faire sa petite bataille dans son coin, c'est perdu d'avance. Bien. Alors, mais c'est pas de ça que je veux parler. Donc, la conquête se fait, la conquête est finie, et donc maintenant, chaque tribu, puisqu'ils sont répartis en tribus, il y en a 12, tout le monde le sait, et donc les 12 tribus vont prendre chacune le territoire qui leur est dévolu, c'est-à-dire la ville, et puis ce qu'il y a autour. Donc, ça va être chacun chez soi. Bien. Tout ça se passe, alors, principalement, très majoritairement, en Canaan, tout le monde le sait, la terre promise, c'est-à-dire la Palestine actuelle, ou Israël, enfin, le pays d'Israël à peu près actuel, bref. Mais pas que. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être, ça concerne 9 tribus et demie, et il y a 2 tribus et demie qui sont de l'autre côté du Jourdain. Le territoire qui leur a été octroyé, c'est la rive est du Jourdain, c'est-à-dire ce qui est actuellement la Jordanie. Donc ça concerne la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Manassé. Donc ceux-là, ils ne sont pas à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire entre le Jourdain et la Méditerranée, ils sont de l'autre côté du Jourdain, dans l'actuelle Jordanie. On peut appeler ça Transjordanie et Cisjordanie, si vous voulez, mais c'est la Jordanie actuelle. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc, tout ça se fait sous la conduite d'un gars qui s'appelle Josué, et Josué, donc, qui a conduit le peuple dans toutes les victoires. On connaît Jéricho, c'est emblématique, parce que les murailles, machin, bon, et tous les villages sont à peu près conquis dans la foulée. Bref, on en est là au moment où on dit, bon, ben, maintenant ça y est, c'est gagné, merci, bravo, chacun chez soi. Et donc chacun chez soi, pour les deux tribus et demie qui sont de l'autre côté du Jourdain, c'est vous, vous retournez chez vous, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, et vous prenez possession de la terre qui vous a été dévolue. Et tout ça nous amène à ce qui se passe dans le livre de Josué, donc, au chapitre 22. Alors, pardon, parce que je vais lire tout le, enfin, je vais lire une grande partie du chapitre, je vais pas lire tout le chapitre, mais je vais lire une grande partie du chapitre. Et donc, les deux tribus et demie, franchissent donc le Jourdain dans l'autre sens pour retourner en Jordanie dans leur territoire. Ainsi s'en retournaient, alors pardon, moi vous savez que je lis dans la traduction œcuménique, et la traduction œcuménique n'est pas dans l'ordinateur, donc là vous allez avoir quelque chose de légèrement différent de ce que je vais lire de mon côté, mais ça s'éloigne très peu. Ainsi s'en retournèrent les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé, parce que Manassé a été réparti de part et d'autre du Jourdain, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait la moitié de la tribu qui était en Transjordanie. Ils quittèrent les fils d'Israël, donc les autres, hein, à Silo, au pays de Canaan, pour aller au pays de Galaad, terre de leur propriété dont ils reçurent la possession sur l'ordre du Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Oui, parce que la plupart des territoires avaient été tirés au sort, mais pas eux, eux c'était voilà, sur ordre du Seigneur. Ils arrivèrent ainsi à Guélilote du Jourdain, qui est au pays de Canaan, et les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel près du Jourdain, un autel de grande... Ah non, pardon. Alors, excuse-moi, ça c'est de ma faute. Je commence au verset 9, pardon, du chapitre 22. Voilà. Ah voilà, là ça risque de ressembler un peu plus. Alors, je recommence. « Ainsi s'en retournèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé. Ils quittèrent les fils d'Israël à Silo, au pays de Canaan, pour aller au pays de Galaad, terre de leur propriété, dont ils reçurent la possession sur l'ordre du Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. » Ça colle, là, ou pas? Oui, bon, très bien. Alors, ils arrivèrent, donc, à Guélilote du Jourdain, qui est au pays de Canaan, et les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un hôtel près du Jourdain, un hôtel de grandiose apparence. Alors, pas écrit un hôtel 4 étoiles, mais presque. C'est bon. Ok, bon, je continue, hein, et puis si vous m'arrêtez si ça colle pas. Les fils d'Israël apprirent qu'on disait les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel face au pays de Canaan, à Guélilote, du Jourdain, du côté des fils d'Israël. Dès que les fils d'Israël l'apprirent, ils assemblèrent toute la communauté des fils d'Israël à Silo afin de lancer contre eux une attaque. Les fils d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Pinhas, fils du prêtre Éléazar, ainsi que 10 responsables avec lui, un responsable par tribu pour toutes les tribus d'Israël, chacun d'eux étant chef de sa famille patriarcale selon les milliers d'Israël. Ils vinrent auprès des fils de Ruben, de Galaad, de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et leur parlèrent en ces termes. « Ainsi parle toute la communauté du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette infidélité que vous commettez envers Dieu, le Dieu d'Israël? Vous vous écartez aujourd'hui du Seigneur en vous bâtissant un autel et vous vous révoltez aujourd'hui contre le Seigneur. La faute de Péor ne vous suffit-elle pas? Nous n'en sommes pas encore purifiés aujourd'hui, malgré le fléau qui tomba sur la communauté du Seigneur, et vous vous écartez aujourd'hui du Seigneur. Vous vous révoltez aujourd'hui contre le Seigneur, demain c'est lui qui s'irritera contre toute la communauté d'Israël. » Or donc, si le pays en votre propriété est impur, passez alors dans le pays de la propriété du Seigneur, où se trouve la demeure du Seigneur, soyez propriétaires au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur, ne vous révoltez pas contre nous en bâtissant un autre autel, à cause de celui du Seigneur, notre Dieu. Lorsque Akan, fils de Zéra, commit une infidélité envers l'interdit, n'est-ce pas sur toute la communauté d'Israël que vint le courroux? Or il ne fut pas le seul qui périt à cause de sa faute. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent aux chefs des milliers d'Israël et leur dirent « Dieu le Seigneur le sait, et Israël le saura. Si c'est par la révolte, si c'est par l'infidélité contre le Seigneur, ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner du Seigneur, et si c'est pour y offrir des holocaustes et offrandes, sous-entendu à un autre Dieu, hein, si c'est pour y faire des sacrifices de paix, que le Seigneur nous en demande compte, mais non, c'est par inquiétude que nous avons fait cela, en pensant à l'éventualité que demain vos fils pourraient dire à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» entre vous, pardon, et le Seigneur d'Israël, « Entre vous et nous, fils de Ruben et fils de Gad, le Seigneur a établi une frontière, le Jourdain. Vous savez, vous n'avez aucune part sur le Seigneur. Vos fils pousseraient nos fils à cesser de craindre le Seigneur. Nous nous sommes dit alors, il nous faut bâtir cet autel, non pour des holocaustes ni des sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous, entre vos descendants et nos descendants, et que c'est bien le service du Seigneur que nous accomplissons devant sa face, par nos holocaustes, par nos sacrifices de paix, afin que vos fils demain ne disent pas à nos fils, vous n'avez pas de part sur le Seigneur. Nous nous sommes dit, si demain on nous tient ce langage, à nous et à nos descendants, nous dirons, voyez la forme même de l'autel du Seigneur, que nos pères ont établi non pas pour des holocaustes ou des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Quelle abomination ce serait de nous révolter contre le Seigneur et de nous détourner aujourd'hui du Seigneur en bâtissant un autel pour les holocaustes, des offrandes et des sacrifices, en dehors de l'autel du Seigneur notre Dieu qui se trouve devant sa demeure. Lorsque le prêtre Pinhas, les responsables de la communauté et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui entendirent ces paroles que prononçaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils se tinrent pour satisfaits. Pinhas, fils du prêtre Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous savons aujourd'hui que le Seigneur est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cette infidélité envers le Seigneur. Vous avez ainsi délivré les fils d'Israël de la main du Seigneur. Pinhas, fils du prêtre Éléazar et les responsables quittèrent les fils de Ruben, les fils de Gad, et revinrent au pays de Galaad, au pays de Canaan, auprès des fils d'Israël, auxquels ils firent rapport. Les fils d'Israël se tinrent pour satisfaits, et ils bénirent Dieu. Ils renoncèrent à lancer contre eux une attaque et à ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben, les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad nommèrent l'autel, alors ça c'est un nom hébreu alambiqué, car... Il n'y a plus rien là ? Il n'y a plus rien, bon, c'est pas grave. C'est le témoin entre nous et le Seigneur. Voilà le nom de l'autel. Alors, pardon pour la lecture un peu rapide. Donc, vous avez compris l'histoire. On leur dit, vous retournez chez vous, donc vous retraversez le Jourdain et vous allez donc à l'est du Jourdain. Et eux, au moment de passer le Jourdain, avant de passer le Jourdain, ils construisent un autel, c'est-à-dire c'est un cube de pierre orné pour les sacrifices. Et donc ça arrive. Alors il est visible des deux côtés du Jourdain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe. Et les 10 autres tribus, enfin les 9 autres tribus et demie s'en émeuvent. Alors on appelle dans le texte, c'est les fils d'Israël, c'est les 9 tribus et demie. Hein. Et donc ils s'en émeuvent en disant, mais c'est quoi ce délire? Et effectivement, il n'y a rien qui ressemble plus à un hôtel, alors hôtel AUTEL bien sûr, hein, qu'un autre hôtel. Et donc ils se disent, mais ça y est, ils ont abandonné notre Dieu et ils vont adorer d'autres dieux et leur offrir des sacrifices. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce que la présence de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a conduit la conquête de Canaan, sa présence est symbolisée par ce fameux coffre qu'on appelle l'arche, hein, ce fameux coffre qui est en même temps un trône, enfin qui est recouvert d'or avec des anneaux. Bon, donc Dieu, il est là parce que dans ce coffre il y a l'étape de la loi, il y a ce qu'on appelle la tente de la rencontre, mais tout ça est au même endroit. Et en l'occurrence, là, l'endroit s'appelle Silo. Parce qu'on a conquis des villes, mais on a conquis, je vous dis, ça ressemble plus à Spéracède, hein, Jéricho, qu'à Stalingrad. Donc évidemment, il y a une ville qui n'a pas pu être prise, et qui ne le sera que beaucoup plus tard, c'est Jérusalem. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas du tout de Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem, elle est encore entre les mains d'autres peuples. Donc on a ces villages-là, et le village où on a choisi de poser l'arche, enfin de poser le coffre, s'appelle Silo, et donc est à la tente de la rencontre, et là, il y a un autel, et c'est là, devant Dieu, qu'on offre des sacrifices. Évidemment que les sacrifices, ça s'offre devant la divinité, et pas à l'autre bout. Donc là, effectivement, eux, qui fabriquent un autel juste avant de passer le Jourdain, ils sont soupçonnés d'aller vers d'autres dieux, tout simplement. Et donc, ça nécessite une explication. l'explication est donnée, et ils disent « Non, non, mais c'est pas du tout parce qu'on veut adorer d'autres dieux, c'est au contraire parce qu'on veut qu'à la frontière entre notre territoire, qui est un peu à l'écart des autres, parce qu'il y a la frontière du Jourdain, et votre territoire, il y ait le signe qu'on est justement toujours un seul peuple, et toujours uni. » Alors, et puis l'explication est acceptée et tout va bien. Et donc, moi, enfin, je ne veux pas être trop long, mais j'en tire cinq leçons. J'en tire cinq leçons pour nous. Alors, c'est des temps très anciens, c'est des circonstances très différentes des nôtres dans notre vie tous les jours. Enfin, dire on va pas conquérir Canaan demain matin, ça c'est clair, mais il y a quand même cinq leçons. Première leçon, il faut avoir conscience que l'unité, c'est pas facultatif. À chaque fois que je vais évoquer un point, je vais évoquer, parce que je fonctionne intellectuellement comme ça, ce qui aurait pu se passer si ça s'était passé différemment. La première chose qui aurait pu se passer, c'est que les 9 tribus et demie qui sont en Israël, on va faire simple, hein, qui sont dans le pays de Canaan, auraient pu dire, ben, ils construisent un hôtel. Peut-être que c'est pour d'autres dieux que le dieu qui nous a conduits jusqu'à maintenant. Ben, après tout, c'est leur problème. C'est leur problème. Chacun fait sa vie, puisque maintenant, de toute façon, on va se sédentariser, parce qu'ils le savent. Hein. Donc, pour l'instant, on était nomades et on était tous ensemble et on était tous derrière la nuée, le machin, dans le désert. Bon, maintenant, chacun va aller habiter son village. Qui en est qui s'amuse à faire des trucs au bord du Jourdain? Et pourtant, c'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils sont prêts, le texte le dit, à leur faire la guerre, alors que c'est leurs frères. Ça va être une guerre fratricide, au sens propre du terme. Mais garder l'unité, et évidemment le garant de l'unité, c'est Dieu lui-même à ce moment-là. C'est-à-dire que les 12 tribus qui ont conquis ensemble le pays de Canaan restent unies, c'est un enjeu qui vaut la peine de se battre pour ça. Et d'aller se taper dessus entre frères. Et pourquoi est-ce que c'est un enjeu qui vaut la peine qu'on se batte? Eh bien, c'est parce que, et le texte le dit, on est interdépendants. Et donc, quand ils vont leur parler, ils vont leur dire « Mais vous croyez quoi ?» Parce que ils les soupçonnent d'avoir construit donc cet hôtel pour une autre divinité. « Vous croyez quoi ? Que ça va seulement retomber sur vous ?» Non, ça va retomber sur tout le monde. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de se battre pour l'unité ? À cause de l'interdépendance. Et ils leur disent « Mais attendez, souvenez-vous que quand... » Alors, il y a deux épisodes qui sont évoqués. L'épisode de Péor. Alors, Péor, c'est le peuple d'Israël qui fait la fête. Et vous voyez ce que je veux dire quand on dit « fait la fête ». Clairement, c'est avec les filles de Moab. Et évidemment, comme la contagion se passe toujours dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est pas les filles de Moab qui se convertissent au Dieu unique d'Israël, c'est l'inverse, c'est que les filles de Moab amènent les Israélites à rendre un culte à leur Dieu, à elles. Et donc ça se passe très mal, et ça se passe tellement mal que la sanction, elle tombe sur tout Israël. Et pas seulement sur ceux qui ont couché avec. Résultat des courses, c'est écrit dans le texte qui relate ça, 24 000 morts, hein, quand même. Bon. Et le deuxième épisode qui est évoqué, c'est Akan, qui, alors très rapidement, et parce que Dieu a dit, vous prenez possession du pays, mais vous ne touchez à rien, c'est-à-dire pas de butin, pas de pillage, pas de trucs comme ça. Et lui, il va trouver que... les possessions du pays, c'est pas, enfin, il y a des choses qui l'intéressent, et donc il prend ce qui l'intéresse, et il est finalement démasqué, mais au lieu que la sanction tombe sur lui, ça tombe aussi sur tout Israël, parce que à cause de lui, On perd une bataille, c'est-à-dire que Dieu n'est plus à côté des, aux côtés des Israélites. Donc c'est la conquête d'une des villes qui s'appelle Haï, mais peu importe. Et donc là, encore une fois, c'est tout Israël. C'est une bataille perdue pour tout le peuple. Donc, ce que les délégués, Pinhas en tête, Pinhas c'est le fils d'Éléazar, et Pinhas c'est justement celui qui avait transpercé avec une lance un des Israélites qui était en train de coucher avec une Moabite, et avec la même lance il a transpercé les deux, ça le problème était réglé, et c'est ça, nous dit le texte, qui a apaisé la colère de Dieu. Bon, bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que leur message, c'est le comportement des uns rejaillit sur les autres. C'est pas chacun pour soi. L'unité, si elle est aussi importante, c'est parce que ce que font les uns, ça rejaillit inévitablement sur les autres. Et donc, nous, les 9 tribus ennemies, on ne va pas, vous, les 2 tribus ennemies qui restent, vous laisser faire n'importe quoi, parce que c'est sur nous que ça va retomber. On n'est pas indépendant, on est interdépendant. Parce que on est un peuple. J'ai parlé tout à l'heure des lettres à l'Apocalypse. Quand Dieu écrit à une église, il dit pas vous, il dit tu. Il dit voilà ce que j'ai contre toi. Alors, il dit aussi, parce que il n'est pas complètement aveugle et sourd, il dit aussi, il y en a parmi vous qui ont combattu le travail des Nicolaïtes, bon bref, il sait faire la différence entre les uns et les autres quand il le faut, mais globalement, quand il s'adresse à une communauté, il dit tu. C'est-à-dire, le comportement des uns rejaillit sur les autres. Et là, c'est ce qui se passe. Pas question de vous laisser faire un autel à un autre dieu, parce que c'est sur les 12 tribus que ça va retomber, et pas seulement sur les 2 tribus et demie. Donc, premièrement, avoir conscience de l'importance de l'unité, mais pas comme ça, dans le vide ou dans le vague, avoir conscience de l'unité parce qu'on est interdépendant et que ce que font les uns, ça rejaillit sur les autres. Deuxièmement, là le texte est clair, donc je ne vais pas m'arrêter très longtemps. Deuxièmement, se parler pendant qu'on peut encore le faire. Une des clés de l'unité, c'est ça. Ils ont décidé d'aller leur faire la guerre parce qu'ils ne veulent pas de cet autel, soupçonné d'être dressé pour un dieu étranger. Donc, l'enjeu est tel que, pourtant ça fait des années qu'ils combattent, puisqu'il a fallu conquérir Canaan, et donc, maintenant que la conquête est finie, on pourrait dire, enfin on rentre chez nous, hein, les soldats, ils sont toujours contents de rentrer à la maison, et ils ont toujours hâte, personne, sauf quelques barjots, personne n'aime que les guerres se prolongent, et donc là, on est en train de préparer une attaque fratricide, et on est au bord donc de la guerre, du coup civile, mais on va se parler. On va se parler parce qu'il n'est peut-être pas trop tard pour avoir une explication. Après, ce sera trop tard. Après, de toute façon, on se tape sur la figure. Donc, mais il y a un moment, dead end, où après, on peut plus. Après, on peut plus se parler, pas parce que on n'a plus de voix, mais parce que on n'a plus l'écoute de l'autre. C'est pas quand on ne se parle plus, c'est parce qu'on ne s'entend plus, au sens premier du terme. On ne s'écoute plus. Et donc, il y a un moment où le dialogue, il ne sera plus possible. Et là, l'intelligence des fils d'Israël, c'est de dire, on va pas se taper sur la figure tout de suite. On ne sait jamais, on va aller discuter avec eux, on va aller leur dire. Alors, ça suppose une franchise, c'est pas on va essayer de négocier, allez, on vous laisse un demi, ou alors vous le déménagez, votre machin, parce qu'il est du mauvais côté du Jourdain. Donc, vous le déménagez, votre machin, vous le mettez 25 kilomètres à l'intérieur des terres, et puis comme ça, on saura pas ce que vous... Après, vous faites ce que vous voulez. Non, on se parle, mais on se parle franchement. On se dit les choses. Et vous avez entendu dans la lecture que le discours, il est vigoureux. C'est vous êtes en train de faire des conneries, là. Et donc, on ne va pas vous laisser faire. Il faut... Enfin, il vaut mieux se dire ça que d'arriver. Alors là, on parle de guerre. Bien sûr qu'aujourd'hui, les conflits, surtout intracommunautaires, les conflits ne débouchent pas là-dessus, heureusement, sinon on serait tous aux urgences. Bon, mais il y a un moment, symboliquement, où on peut plus se parler. On continue à se sourire, mais il y a un moment où on n'a plus la liberté de dire à l'autre ce que tu fais ne me plaît pas. Et donc là, la sagesse des enfants d'Israël, donc des 9 tribus et demie, hein, je ne répète pas ça à chaque fois, la sagesse des 9 tribus et demie, c'est de savoir dire, pendant qu'il en est encore temps, on va se parler et on va se dire franchement les choses. Ça permet d'ailleurs aux autres de dire aussi les choses et de dire que cet autel, il n'est pas du tout pour une divinité. Alors, ils le répètent à longueur de texte. Hein, je me suis forcé à tout lire, mais ils le disent 10 fois pour que ce soit bien clair, pour que le message passe bien, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est pas du tout pour une divinité étrangère. Au contraire, c'est pour que cette autel qui est visible de part et d'autre du Jourdain, c'est-à-dire qui est visible autant par nous que par vous, ça marque notre attachement au peuple. Ça marque que même si le Jourdain sert de frontière entre nous, c'est pas vraiment une frontière, parce que cet autel, c'est un pont, encore une fois, par-dessus le Jourdain, entre les tribus de l'Est et les tribus de l'Ouest. C'est pour marquer que, justement, on reste profondément attaché à notre appartenance au peuple et que la géographie ne créera aucun mouvement séparatiste. Et là, le texte dit, je ne sais pas comment c'était traduit tout à l'heure, mais bon, peu importe, aussi bien la délégation que après le peuple auquel la délégation ira rendre compte, ils se sont déclarés satisfaits. Ils se sont déclarés satisfaits, et j'en arrive donc au troisième point. Le premier point, c'était l'importance. Le deuxième point, c'est on se parle. Le troisième point, c'est quand ils leur ont expliqué ça, les autres, donc la délégation, ils les ont crus. C'est-à-dire, ils n'ont pas soupçonner de leur part la moindre mauvaise foi. Oui, c'est ça. Vous nous racontez ça, vous nous dites qu'effectivement c'est un autel au Seigneur, mais parce qu'on est à deux doigts de vous taper sur la figure, donc c'est sûr que ça va vous éviter de graves ennuis. Et qu'est-ce qui nous prouve d'abord, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un autel qu'un autre autel, qu'est-ce qui nous prouve que ce que vous nous dites là, qu'est-ce que... Non. Ah, ok. C'était dans un souci d'unité, au contraire. Alors, tant mieux, on est content. On est content et on repart chez nous. Ça suppose que, malgré le différend qu'il y a eu, et un différend sérieux, parce que on est presque sur le point de déclarer la guerre, malgré ça, on crédite la partie qui est en face de bonne foi et de sincérité. Notre interlocuteur, même quand on est dans le conflit, si on ne le crédite pas d'un minimum de sincérité, alors c'est plus la peine de se parler. C'est plus la peine de se parler. Si la délégation était arrivée en disant « Vous nous racontez ce que vous voulez, de toute façon on ne vous croit pas », autant se taper sur la figure tout de suite. Pas la peine d'envoyer une délégation. Il faut croire à la sincérité de l'autre. Tu me dis ça, tu me dis que cet autel, il est pour le Seigneur, alors je te crois. Je te crois et du coup je te comprends. Et du coup le lien qui a failli être brisé, non seulement il ne l'est pas brisé, mais il est renforcé. Parce que vous avez marqué votre attachement au Dieu d'Israël et surtout à la communion qu'il y a entre nous et qui va rester entre nous de part et d'autre du Jourdain. Quatrième leçon, faut pas s'accrocher à des principes qui ne sont que des principes. Parce que la délégation aurait pu dire, bon, vous nous racontez ça, admettons même qu'on vous croit. Sauf qu'il y a quand même des règles dans la vie. Et les règles, c'est que un autel pour faire des sacrifices, vous nous dites que c'est pour le Seigneur. Bon, admettons. Mais l'autel, il ne peut pas être nulle part ou n'importe où. Quand on rend un culte au Dieu qui est là. Donc là, en l'occurrence, c'est Silo. Pas encore Jérusalem, ça ne le sera que très longtemps après. En l'occurrence, c'est là qu'il y a le coffre, enfin, l'arche de l'Alliance, pour la nommer de manière habituelle. C'est là qu'il y a la tente de la rencontre. Donc si vous voulez faire des... Vous êtes les bienvenus, hein. Il n'y a pas de frontière, hein. On va pas vous faire payer l'entrée, hein. Donc quand vous voulez rendre un culte à Dieu, eh ben, vous venez là où est Dieu, c'est-à-dire à Silo, et vous fabriquez votre autel si vous voulez, mais vous n'allez pas mettre un autel en rase campagne. Ça s'appelle s'accrocher à des principes. Dieu n'a jamais dit que vous, peuple d'Israël, vous devez me rendre un culte là où je suis. Parce qu'au contraire, il finira par dire, de toute façon, vous pouvez me construire un temple. Je n'habite pas dans le temple. Un bâtiment fait par la main des hommes, ça ne peut pas me contenir. Donc c'est pas là que je suis spécialement, je suis partout. Le temple, il n'est pas pour moi, il est pour vous. Pour que vous matérialisiez la présence de votre Dieu au milieu du peuple. Mais il n'est pas pour moi. Ça veut dire, il leur dira ça beaucoup plus tard, mais ça veut dire que même si je ne suis pas dans le temple, enfin, même si vous n'êtes pas dans le temple, je suis quand même là. Et là, ce que les deux tribus ennemies ont compris avant tout le monde, c'est que pour rendre un culte à Dieu, il n'y a pas un endroit particulier pour le faire, il n'y a pas une manière particulière de le faire, mais Dieu est partout et tout le temps. Et donc, si l'autel peut aussi servir à montrer l'unité, alors cet autel, planté au milieu de nulle part, il a toute son... Enfin, pas nulle part d'ailleurs, au bord du Jourdain. Il a toute son importance et toute sa raison d'être. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher à des principes. Ça veut dire que se déclarer satisfait, c'est pas seulement se déclarer satisfait de l'explication, c'est aussi... se déclarer satisfait d'une explication qui bouscule mes habitudes. Quand l'autre, celui avec qui j'étais prêt à régler mes problèmes à coup de boule, hein, c'est l'équivalent, quand il me donne une explication et que cette explication, ça bouscule mes habitudes et ça me sort, on dit maintenant, de ma zone de confort ou ça me met en décalage par rapport à mes représentations, il faut quand même que ça me satisfasse. Là, ce que les 10 tribus et demi, les 9 tribus et demi ont appris, c'est que effectivement, d'ailleurs, ça n'était écrit nulle part que l'autel des sacrifices devait être devant la tente de la rencontre, et des autels de sacrifices, il peut y en avoir ailleurs, parce que Dieu est partout. Et parce que cet autel-là spécifiquement, il est au service de l'unité. Et puis le cinquième et dernier, après je m'arrête, hein, cinquième et dernière leçon, c'est que l'unité, pour la faire vivre, il faut regarder vers l'avant. Les deux tribus ennemies qui sont en Transjordanie, ont fait la guerre avec les 9 ennemis qui restent. Donc tout le peuple a fait la guerre ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, puis vous savez, enfin vous savez, je ne sais pas combien d'entre vous ont fait la guerre, peut-être Charlie, mais la fraternité des armes, c'est quelque chose. C'est-à-dire que quand on s'est battu côte à côte, ça crée un lien indéfectible. On n'est plus jamais des étrangers entre gens qui se sont battus côte à côte. Qui ont fait la guerre ensemble. Donc, le risque, il n'est pas pour cette génération-là. D'ailleurs, il l'explique. Là, il n'y a pas besoin d'un autel pour symboliser l'unité du peuple. L'unité du peuple, elle est évidente. On a fait toutes les batailles ensemble. Mais après, il va se passer quoi? Après, à la génération suivante, puisque maintenant, on va se sédentariser. Chaque tribu va occuper un village et le territoire alentour. Donc les occasions de se voir, de se parler, ça ne sera plus comme avant. Ce ne sera plus tout le monde marche dans le désert. Bon. Et donc, tant qu'on est dans le même territoire, bah, bien sûr, on a le même Dieu, il y aura un endroit unique pour l'adorer, mais les deux tribus ennemies là, qui sont de l'autre côté du Jourdain, ça va très vite devenir, si on n'y prend pas garde, si on ne se donne pas les moyens de maintenir l'unité, à l'avenir, cette unité, elle va progressivement devenir très théorique et se dissoudre. L'unité, c'est soluble dans le temps. Et ils disent, mais nous, on a fait ça pour que vos enfants qui seront dans le pays de Canaan, c'est-à-dire dans la vraie terre, dans la vraie terre promise, nous qui sommes de l'autre côté du Jourdain, il faut surtout pas que vos enfants disent à nos enfants, vous n'avez rien à faire avec nous. Alors vous n'avez pas de part, vous n'avez pas de part au Seigneur. Ça veut dire, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Le risque, c'est que progressivement, sans méchanceté particulière, mais simplement par un fait géographique en l'occurrence, mais vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est nous. Pour marquer l'attachement et l'appartenance au peuple de Dieu, c'est pour ça qu'on construit cet autel, et c'est pour ça qu'on le construit là, pour que les enfants de Canaan voient les enfants de Gad, de Ruben et de Manassé rendre un culte au Dieu d'Israël pour montrer qu'ils font partie du peuple. Et donc, pour lutter pour l'unité dans ces conditions-là, il faut regarder vers l'avant. Avoir raison contre quelqu'un. Moi, j'ai vu beaucoup d'églises, et on a encore des nouvelles d'une église de plus qui s'est divisée, mais j'allais dire, c'est contagieux. Avoir raison contre l'autre, c'est une satisfaction immédiate. Mais dans le temps, ça fait quoi? Oui, on a eu raison contre eux. Vous avez eu tort parce que vous étiez politiquement minoritaire. La belle affaire. Ça fait quoi? Ça fait une rupture quand même. Une rupture entre ceux qui ont tort et ceux qui ont raison. Et alors, si c'était l'inverse, ça change quoi? C'est toujours une rupture. Quand on regarde un peu plus loin devant, on sait ce qu'il faut faire pour travailler à l'unité. Voilà, alors, il y a encore plein de leçons dans le... Je m'arrête parce que j'ai commencé tôt et qu'on va prendre la scène. J'ai demandé effectivement à Tahar à ce qu'on prenne la scène après ma prise de parole parce que pour moi ça fait sens, ça a du sens de partager le pain et le vin qui marque notre unité. C'est une façon pour nous de dire qu'on est un seul peuple aussi. Et donc je voulais suggérer ces pistes de réflexion et surtout d'action en disant, j'ai commencé par l'unité, c'est fragile. Oui, c'est fragile, mais c'est important. Mais c'est la volonté de Dieu. Et c'est peut-être aussi ce que recherche celui ou celle à qui j'ai envie de mettre une tête au carré. Parce que je peux me tromper.